Ce soir, on reçoit le chercheur Anthony Galluzzo à l'occasion de la sortie de son livre « Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». Effectivement, on ira du côté d'Elon Musk, de Jeff Bezos. Il y a eu Steve Jobs à un moment donné, Bill Gates, quand on était jeunes, avec leurs superbes ordinateurs Microsoft.
Oui, puis cette espèce de bataille Steve Jobs contre Bill Gates, Microsoft contre Apple. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce livre, finalement, il a du succès aussi parce que le mythe de l'entrepreneur, ça parle aux journalistes. Ça parle à la plupart d'entre nous. Et
Dans l'imaginaire collectif.
Dans l'imaginaire collectif, même si le sous-titre, c'est « Défaire le mythe de l'entrepreneur », il y a quand même une partie de fascination par rapport à toutes ces personnalités.
Et d'ailleurs, toi qui as fait une thèse en gestion, je crois, comment t'en es venu à t'intéresser à vouloir défaire ce mythe de l'entrepreneur? Parce qu'on parle souvent de Startup Nation, tout ça. Pourquoi s'intéresser à l'entrepreneur et à ces personnages-là de la Silicon Valley?
Alors, ça faisait quelques années que j'avais ça en tête, en fait. Un des moments qui était assez important pour moi, ça a été la mort de Steve Jobs il y a une dizaine d'années, où en fait on a eu un deuil planétaire, c'est-à-dire que sur Twitter, il y avait tout un ensemble de termes qui revenaient souvent, il y avait tout un ensemble d'hommes d'État qui venaient célébrer Steve Jobs et qui, en fait, les mêmes termes revenaient à chaque fois, visionnaire, génial, créateur, il nous a donné, il y avait une phrase élogie du don comme ça, il nous a donné l'iPhone, voilà, l'impression qu'en fait, sans lui, le progrès technique, si on peut l'appeler comme ça, en fait, technologique, voilà, ce serait arrêté, en fait. Ça m'avait interpellé à l'époque, j'ai laissé ça de côté, je l'ai gardé en esprit, en tête. Et avant d'écrire ce livre, je me suis penché sur la littérature scientifique et j'ai tapé « mythe de l'entrepreneur » dans les différents moteurs de recherche scientifique pour voir si ça avait déjà été travaillé. Et finalement, assez peu. Il y a eu quelques papiers sur l'imaginaire entrepreneurial, mais assez peu. Et donc, je m'y suis attelé.
D'ailleurs, là, dans ton livre « L'entrepreneur » dont tu parles, c'est pas, on ne va pas parler de l'acteur économique et social, mais plus du discours, de l'imagerie de cet entrepreneur. Et tout à l'heure, hors micro, on parlait de, justement, quand on parle d'imaginaire collectif et de choses dont on a entendu parler, de Bush qui disait que l'entrepreneur, le mot entrepreneur n'existait pas en français. L'entrepreneur, c'est quoi exactement?
Alors, l'entrepreneur, c'est un terme qui est assez polysémique, en fait. On le voit dans la littérature, en fait, il y a une littérature scientifique en gestion sur l'entrepreneuriat qui est, en fait, assez intéressante parce que quand les chercheurs en entrepreneuriat cherchent à définir leur objet de recherche, ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir ce que c'est qu'un entrepreneur. À partir de quand? Alors, est-ce qu'on peut comparer le start-upper richissime avec le boulanger qui lance sa boulangerie ou son petit restaurant, son petite épicerie? Est-ce qu'il faut être créatif au sens innovant? Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation? À quel moment on considère qu'on est sur une innovation suffisamment radicale pour être considéré en entrepreneur? Voilà, donc il y a un véritable problème dans la définition scientifique de l'objet. Mais dans le sens, dans l'imaginaire que je décris dans le livre, et dans ce à quoi je m'adresse, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est la connotation de l'entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas un capitaliste. Un entrepreneur, ce n'est pas un homme d'affaires. Un entrepreneur, ce n'est pas un homme d'argent. Au contraire, un entrepreneur, on a tout un imaginaire romantique derrière qui nous explique que l'entrepreneur, c'est en fait un homme d'action qui va sur le marché pour aider à faire advenir le progrès humain à travers la technologie, notamment pour les entrepreneurs de la tech. Il y a toute cette connotation-là, en fait, qui le détache de l'homme d'affaires, du capitaliste, qui dans un discours plus socialisant ou socialiste, en fait, l'associe à la domination.
Et ce qui est frappant aussi, puisque Juliette a commencé sa question comme ça, sur comment t'en es venue à travailler là-dessus, et tu as dit toi-même que tu avais rentré dans les moteurs de recherche mythe de l'entrepreneur, mais moi ce que j'ai appris en lisant ton livre, c'est qu'il y avait justement de la recherche en entrepreneuriat. Ça correspond à quoi? Quand est-ce que c'est né? Qu'est-ce que c'est ce champ scientifique? Est-ce qu'on peut parler d'un champ scientifique d'ailleurs, ou est-ce que c'est une entreprise politique?
Oui, alors la recherche en entrepreneuriat se développe à partir des années 80, au moment du tournant néolibéral, mais de manière générale, en fait, on peut faire l'histoire, il faut remonter à l'histoire des sciences de gestion. À la base, on a simplement des sciences juridiques et économiques, puis on a des sciences de gestion avec la stratégie, la finance, les ressources humaines, le marketing, etc., qui se détachent et qui prennent leur autonomie. Alors, tout d'abord aux États-Unis, donc c'est l'histoire, ça se déploie tout au long du XXe siècle, hein, et en France, véritablement, ça commence à s'articuler après-guerre et surtout à partir des années 60. Et à partir des années 80, on a un nouveau rejeton, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait de la recherche en organisation, théorie des organisations et de la recherche en stratégie. Et maintenant, il y a une autre catégorie qui est la recherche en entrepreneuriat. Alors, effectivement, quand on fait la généalogie, l'histoire de ce champ scientifique, on voit que ça correspond à, si on peut dire, la néolibéralisation de l'université, c'est-à-dire que cette matière émerge à partir du moment où on a le tournant libéral en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, avec Thatcher, Reagan, dont l'histoire est bien connue. Et au moment où les universités vont être de plus en plus le lieu où on va former des futurs salariés, de futurs entrepreneurs, parce qu'il y a toute une phraséologie, une apologie de l'entrepreneur dans la bouche de Reagan, de Thatcher, mais aussi sous Mitterrand, chez les socialistes mitterrandiens dans les années 80, avec Bernard Tapie, qui nous explique que, voilà, il faut être entrepreneur de soi, il faut aller sur les marchés, se prouver sur le marché. Il y a toute cette rhétorique qui gagne, en fait, l'espace public, et c'est un nouveau bruit de fond. Et à l'université, on va financer de plus en plus des programmes de formation à l'entrepreneuriat pour sortir de l'état social, pour sortir en fait de dynamiques beaucoup plus collectivistes et en fait planter bien davantage le décor du marché avec des individus qui doivent se prouver sur le marché.
Mais donc eux-mêmes n'arrivent pas non plus à définir vraiment très clairement ce que c'est qu'un entrepreneur, alors même qu'ils sont censés avoir des programmes scolaires pour former des entrepreneurs.
Tout à fait. Alors, à leur décharge, c'est le cas de très nombreuses catégories dans de très nombreux champs de recherche. Il y a souvent des polémiques sur des objets de recherche, des définitions. On va avoir plusieurs définitions sur plusieurs traditions, plusieurs courants, plusieurs auteurs d'un même objet. Et parfois, ça donne effectivement un sentiment de grande fragilité, puisque c'est un concept qui est une pierre angulaire dans une discipline qui est vraiment centrale. Donc à leur décharge, c'est quelque chose de relativement commun. Par exemple, si on prend un autre terme qui est important dans l'ouvrage, le mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Alors si on est sur une tradition structuraliste, jungienne ou quoi que ce soit, on va avoir des conceptions très différentes. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui est problématique. Et au-delà de la fragilité inhérente des concepts dans tout champ scientifique, il y a aussi le fait que voilà, on est quand même face à un problème politique, c'est-à-dire qu'on conceptualise des acteurs sur un marché, donc il y a nécessairement une axiologie derrière, il y a nécessairement une vision morale de ce que c'est que la valeur et la création de valeur, et elle est implémentée au cœur même des concepts, elle est véhiculée par les concepts.
D'ailleurs, bah, on en reparlera, je pense, tout au long de cette émission, mais il y a aussi un impensé qui est que ces formations-là, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, elles ont pour but justement donc de former des entrepreneurs qui vont dynamiser l'économie, qui vont créer de la valeur, tu viens de le dire. Mais si tout le monde devient entrepreneur, comment va fonctionner l'économie ?
Oui, effectivement, c'est une rhétorique politique qui comme beaucoup en fait de rhétorique libérale ou on pourrait dire tout simplement capitaliste, en fait, menées à leur terme sont absolument absurdes, en fait, dans ce qu'elles sous-tendent de la vie sociale, effectivement. Alors, si on se réfère aux gens qui portent, dans la version la plus extrême, ce type d'idéologie, ben on est chez les libertariens et les conservateurs. Et là, dans ce paysage-là, alors là, c'est simple, la vie sociale, d'un point de vue purement organisationnel et collectif, hein, c'est-à-dire l'État, elle doit se limiter à l'État libéral dans sa version la plus amaigrie, la plus minimale, hein, c'est-à-dire l'État qui va être là pour protéger la propriété, donc l'État qui va avoir une justice et une police pour protéger les titres de propriété et protéger les biens contre la prédation, contre le vol, etc. Et alors c'est quelque chose qui est assez cohérent, parce que par exemple, si vous vous renseignez sur Steve Jobs ou sur Wired, qui est toujours le grand magazine des fanatiques de la tech et du technoprogressisme, on se rend compte qu'ils sont très souvent libertariens. Et dans le livre, je cite Steve Jobs qui explique qu'il faudrait privatiser entièrement l'école parce que ça serait un marché, ça fonctionnerait bien mieux, les écoles feraient de la publicité, on pourrait les comparer, on pourrait avoir des avantages concurrentiels, et tout ça fonctionnerait évidemment mieux. Il compare ça à l'industrie automobile, ça fonctionnerait aussi bien que l'industrie automobile. Et voilà, alors il reprend des idées à Friedman, donc on voit en expliquant qu'il faudrait donner des bons aux gens plutôt que d'assurer un service public. On voit bien qu'il y a une cohérence idéologique derrière tout ça.
Justement, là, tu parles de ces articles sur Steve Jobs et la façon dont il exprime ses idées. Quelles étaient les sources pour écrire cet ouvrage ? Tu as été dans les archives d'Apple, tu as rencontré des gens qui ont travaillé dans la Silicon Valley. Est-ce que tu as été dans la Silicon Valley ? Ou est-ce que tu as lu toutes les biographies et tous les articles de Wire ?
Alors, très intéressante question parce que ça touche là à un problème qu'on a en fait dans le champ dans lequel j'évolue, c'est ce qu'on appelle la business history, l'histoire des affaires. C'est un champ de recherche très internationalisé et j'ai fait aussi de l'histoire de la consommation, du marketing. On a toujours les mêmes problèmes. Par exemple, pour donner un exemple concret, moi j'ai travaillé sur l'évolution des représentations de l'hygiène en France la fin du 19e à la fin du 20e siècle. Et alors, un acteur institutionnel vraiment monumental dans cette histoire, c'est L'Oréal. Parce que L'Oréal a modelé et remodelé les représentations de la beauté et de l'hygiène, hein, les deux industries sont entremêlées. Comment vous faites pour avoir accès aux archives de cette entreprise librement et pour aller éventuellement aller rechercher des documents qui auront peut-être un impact négatif sur leur image de marque ? C'est des archives qui sont propriétaires, qui sont privées. Et alors là, je vous parle d'un problème qui est général, hein, c'est-à-dire que évidemment, si vous voulez faire une histoire sérieuse de Steve Jobs et ou d'Apple, il faut aller dans leurs archives. Ces archives ne sont pas librement accessibles, ce n'est pas un droit que possèdent les chercheurs que d'aller dans ces entreprises et de s'emparer de ces archives. Donc, on ne peut pas procéder de cette façon. Là, ma méthode, personnellement, ça a été de faire une double recherche. Alors tout d'abord, constituer un corpus, c'est-à-dire que je fais une étude de cas inaugurale pour expliquer le mythe de l'entrepreneur, ce que c'est, ses différentes facettes. Je fais l'étude de cas sur Steve Jobs, alors pas parce qu'il est particulièrement plus intéressant qu'un autre, hein, c'est simplement qu'il est bien positionné par rapport à nous, il est suffisamment loin dans le temps pour qu'on ait du recul historique, mais suffisamment proche pour que ça soit évocateur. J'aurais pu prendre Carnegie, qui est beaucoup plus ancien, ou Musk, beaucoup plus récent, et donc ça pose les problèmes que je viens d'expliquer, trop récent ou trop ancien pour le lectorat. À partir de cette étude de cas, en fait, j'ai constitué un corpus, j'ai essayé de lire tout ce que j'ai pu trouver de biographies, voir tout ce que j'ai pu voir de documentaires, de biopics, lire tout ce que j'ai pu lire d'articles de presse, toute cette documentation, et j'ai fait une analyse thématique, c'est-à-dire quels sont les thèmes qui reviennent sans cesse, les figures de style qui reviennent sans cesse, les allégories, les métaphores qui reviennent sans cesse, et au contraire, tout ce qui n'est quasiment jamais évoqué. Et ensuite, deuxième état de l'art, en fait, deuxième investigation empirique que j'ai fait, deuxième investigation scientifique, je me suis renseigné sur toute la socio-économie, la socio-histoire de la Silicon Valley, de l'innovation dans l'industrie électronique, et j'ai essayé de confronter ces deux littératures pour bien montrer ce que cette littérature apologétique de l'entrepreneur a de caractéristique.
Bah, par ailleurs, tu traces aussi une forme d'histoire à grands traits de la presse, parce que en fait, tu montres dans ton livre que ce mythe de l'entrepreneur, en réalité, il est ancien. Mmh. Il est aussi ancien que le capitalisme industriel. Et il est parallèle au développement d'une certaine presse, d'une presse qui est dépendante des annonceurs, qui fait aussi son beurre hein, sur des interviews, sur la constitution de célébrités, ce que tu appelles le théâtre des célébrités, les scandales, etc. Mmh. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui est très historique dans ton livre. Tu daterais de quand, en fait, la naissance de cette forme de presse et du coup de cette forme de mythification de célébrités qui ne sont pas purement des artistes, mais qui sont des célébrités dans le champ économique ?
Alors, il y a une naissance conjointe des célébrités, quelles qu'elles soient, parce que la célébrité, en fait, c'est le produit d'une histoire médiatique. Il faut qu'il y ait des médias de masse pour qu'il y ait des célébrités nationales et internationales. Donc, le théâtre des célébrités émerge deuxième moitié du 19e siècle ou dernier tiers du 19e siècle avec la presse de masse et notamment l'internationalisation de cette presse de masse. Et on a un théâtre des célébrités où on a dès le début voilà, des stars de musicales, des hommes d'État, mais aussi des entrepreneurs. Par exemple, Thomas Edison et Carnegie comptent parmi les premières célébrités entrepreneuriales de renommée vraiment mondiale. On en parle aussi en Europe, même si Carnegie et Edison sont actifs aux États-Unis à l'époque. Donc on a ces effets de structure-là. On a les célébrités, en fait, le théâtre des célébrités évolue en fonction de notre appareillage technologique. Et à partir de la fin du 19e siècle, on commence en fait à voir nos imaginaires peuplés de personnages lointains, Et donc, on commence à voir dans les conversations quotidiennes, en France, ailleurs, voilà, des conversations qui commencent à porter sur des individus qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, qu'on ne verra jamais, mais dont les aventures nous sont rapportées par des journalistes à travers des portraits. Alors, des formats très classiques, hein, qu'on a encore aujourd'hui, hein, des portraits, des entretiens. Et il y a aussi les progrès de la reproduction des images, hein, c'est-à-dire lithographie, chromolithographie, reproduction des photos, etc., qui aident en fait à cette starification.
Mais par ailleurs, tu montres que cette presse, elle a été destinée à un public particulier, un public précis. En fait, c'est la bourgeoisie progressiste d'un côté, mais aussi les conservateurs de l'autre, et qui se retrouvent tous les deux dans cette vision du monde par les célébrités, par des personnages importants.
Oui. En fait, il y a un... Là où c'est intéressant de remonter à la fin du XIXe siècle, c'est au-delà de l'éclosion en fait, du mythe de l'entrepreneur et de la célébrité entrepreneuriale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur un moment de contestation politique des grandes puissances économiques. Donc des gens comme Carnegie, par exemple, qui sont des manias de l'acier et en fait sont dans une position de monopole et de grande puissance, de concentration de capitaux économiques, ils vont être contestés, notamment par des mouvements socialistes et anarchistes qui sont très importants et vigoureux à l'époque. Et ils vont avoir besoin d'entreprendre leur récit et de s'emparer des médias. Jusqu'à présent, ils les délaissaient assez largement. Pourquoi ? Parce qu'il faut légitimer et asseoir leur pouvoir face à une opinion publique qui, en fait, est partagée, et notamment au sein même de la bourgeoisie. Donc on dit souvent, alors c'est un peu la version, parfois un peu simpliste, qui est colportée dans certains documentaires, l'idée d'une bourgeoisie progressiste, d'une bourgeoisie de gauche aux États-Unis qui mène l'assaut contre les grands monopoles, contre la Standard Oil, contre Rockefeller, et qui réussit à faire plier, à casser les trusts. En fait, ce dont on se rend compte dans ces grands journaux, ces grands magazines de l'époque, c'est qu'en fait, on avait des articles très contrastés. Une partie des articles, effectivement, s'attaquait aux monopoleurs et à la corruption du milieu des affaires, etc. Mais en même temps, on avait aussi des portraits qui faisaient l'éloge des grands hommes de la nouvelle industrie. Donc on avait un bilan assez contrasté, avec parfois aussi des articles très anti-syndicaux. Donc c'était très contrasté. Et en fait, ce qui a triomphé, c'est une bourgeoisie américaine progressiste qui considérait qu'il fallait pas abattre le capitalisme, loin de là, qu'il fallait simplement le réguler, mettre davantage de normes, davantage d'intervention de l'État. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que le paysage médiatique, les célébrités entrepreneuriales vont se répartir en deux catégories. On va voir les gens comme Carnegie et Rockefeller, au bout d'un moment, qui vont réussir à s'affirmer comme des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'aventure industrielle et qui construisent un empire pour l'Amérique. Et de l'autre côté, on va avoir des gens comme Jay Gould, par exemple, qui ne seront jamais rachetés, ou JP Morgan, qui vont être relégués au rang d'affreux spéculateurs, de capitalistes. Et en fait, il va y avoir justement la naissance des relations publiques et chez les entrepreneurs, la narration de soi. C'est important quand un entrepreneur à l'époque de se dire « il faut que je me raconte, il faut que je justifie de mon existence, de mon parcours, il faut que je célèbre mon propre parcours et que je manage mon incarnation médiatique ». Pour justifier mon pouvoir. Ça va être déterminant dans la poursuite de mes affaires.
Donc il y a une dimension éminemment politique dans ce mythe de l'entrepreneur à cette époque-là.
Oui, complètement, et encore aujourd'hui.
Il y a une conjonction d'intérêts aussi entre ces journalistes-là, cette middle class, alors je ne sais pas, ou petite bourgeoisie progressiste, qui se qualifie elle-même comme progressiste, et puis la construction par les entrepreneurs eux-mêmes ou par ces personnages eux-mêmes de leur propre mythe.
Oui, tout à fait, puisque... Cette classe, en fait, cette petite et moyenne bourgeoisie, en fait, c'était une classe managériale, c'est-à-dire qu'elle avait intérêt, elle aussi, à la perpétuation du capitalisme, et elle était simplement, en fait, militante pour une plus grande régulation, pour sortir d'un capitalisme qui était jugé trop corrompu et corrupteur, mais elle était, en fait, déjà, voilà, il y avait déjà on était déjà à la suite d'un processus d'urbanisation, tertiarisation extrêmement important, et donc c'était déjà une classe qui était, dans l'ensemble, très favorable à ces grandes figures et qui étaient déjà assez embarquées en fait et assez enthousiasmées par les grands récits qui se mettaient en place et les grandes apologies qui se mettaient en place. Ouais.
c'était plutôt raconter un peu l'histoire de ces entrepreneurs au 19e, au début du 20e.
L'histoire de la naissance du
mythe. Donc aux États-Unis. Et puisqu'on parle d'imaginaire collectif, dans l'imaginaire collectif, il y a quand même Steve Jobs. On connaît tous un peu son physique. Beaucoup de gens ont
son style,
voilà, c'est sa manière de s'habiller, sa manière de parler lors des conférences. On connaît aussi évidemment ce qu'il a créé avec Apple. Et donc, est-ce qu'on pourrait justement parler un peu de cette histoire et de la façon dont il a raconté ce mythe-là, et peut-être essayer de le défaire après.
Alors, le mythe de l'entrepreneur, effectivement, je l'ai abordé à travers la figure de Steve Jobs, puisqu'on a tout un ensemble de facettes qui reviennent. Hein, c'est-à-dire que vraiment, les différentes facettes que je vais aborder ici, on peut en parler pour Steve Jobs, on peut en parler pour Carnegie, on peut en parler dernièrement pour Musk. Il y a plusieurs éléments. Il y en a
pour Jeff Bezos aussi.
Pour Jeff Bezos également, effectivement. Et alors, un point commun pour Jeff Bezos et Steve Jobs, c'est l'idée du garage, c'est-à-dire l'idée d'avoir commencé tout petit dans un coin de sa maison individuelle, de sa résidence, et d'avoir comme ça grandi de manière incrémentale à partir de rien. Et en fait, c'est ça, il faut bien comprendre dans tous ces récits, quelle est la vision du monde social, la création de richesses et de l'économie qu'on nous transmet. Alors, l'idée du garage, c'est très fort dans le mythe d'Apple. D'ailleurs, c'est un lieu où il y a une plaque commémorative qui a été installée. C'est un lieu qui est vraiment patrimonialisé dans la Silicon Valley, le garage de Los Altos où Steve Jobs et Steve Wozniak ont fondé Apple. Et alors là, c'est intéressant de voir qu'on a encore une fois de l'arbitraire, c'est-à-dire que la création d'une entreprise, ça s'échelonne généralement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Quand faire débuter l'entreprise, le premier contrat, le premier prototype, la rencontre des deux fondateurs, l'arrivée de tel ou tel employé qu'on va juger capital, etc. etc. Et alors, dans toutes les biographies, dans tous les discours sur Apple, on va nous raconter que la naissance d'Apple, c'est dans un garage où deux gamins vont bricoler un ordinateur. Alors qu'il y a tout un ensemble de récits alternatifs. Un autre récit, ça peut être de dire que la naissance d'Apple, c'est chez Hewlett-Packard, puisque Steve Wozniak, qui est l'ingénieur qui a réellement créé les deux premiers Apple, Apple 1 et Apple 2. L'Apple 2 était important puisque ça a été la vache à lait d'Apple pendant 10 ans, c'est-à-dire la machine qui a généré un maximum de profits, qui a permis à l'entreprise de croître. Steve Wozniak était un employé, un ingénieur de Hewlett-Packard, qui a utilisé les ressources de Hewlett-Packard pour créer ses prototypes. On peut aussi s'imaginer que la naissance d'Apple, c'est dans le Homebrew Computer Club, qui est un club d'informaticiens anarchistes, comme il était souvent à l'époque en Californie, on est dans la fin des années 70, où Steve Wozniak va se former aux dernières nouveautés et innovations technologiques en termes de micro-informatique, puisqu'il était un peu largué à ce moment-là, puisqu'il était parti sur les calculatrices. Et c'est de cette intelligence collective que va naître l'Apple 1. Voilà, il y a tout un ensemble de récits possibles. Sauf que ceux qui sont sans cesse répétés, c'est toujours ce récit du garage et qui fait intervenir Steve Jobs, alors que dans la naissance d'Apple, il n'est pas indispensable. On peut s'imaginer plein de récits où il est complètement ou quasiment absent.
Il y a un côté visionnaire dans Steve Jobs.
Oui, aussi. Alors ça, c'est une autre composante qu'on retrouve aussi dans toutes les mythifications, dans tous les grands récits, les grandes héroïsations de l'entrepreneur. Le visionnaire, c'est l'idée que il y a les pauvres mortels, vous et moi, on n'est pas dotés de vision, on n'a pas super pouvoir, alors que les entrepreneurs, eux, si, ils sont visionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir ce que personne n'est encore en mesure de voir et de comprendre. Ils sont capables, alors ça varie, soit ils sont capables d'inventer le futur par leur action créatrice, soit ils sont capables d'anticiper ce qui va arriver et donc d'être les premiers dans la course. Il y a toujours cette ambiguïté. Alors, chez Steve Jobs, on a de multiples talents visionnaires qui nous sont rapportés. Alors, les biographes insistent plus ou moins les uns et les autres sur telle ou telle vision, mais alors ils seraient censés avoir vu la micro-informatique de demain, ou alors, si c'est pas la micro-informatique, l'ordinateur moderne, c'est-à-dire avec une interface graphique, il serait censé avoir vu le baladeur MP3 de demain. Et en fait, quand on se renseigne sur l'histoire de tous ces objets, on se rend compte qu'ils ont généralement été conceptualisés quand Steve Jobs était adolescent, voire avant même sa naissance, et conceptualisés de manière très précise. Hein, c'est-à-dire, par exemple, le baladeur MP3, on a les premiers dessins d'ingénieurs, vraiment, la ressemblance est frappante, dans les années 70. C'est simplement que technologiquement, ce n'était pas faisable. Et c'est là une illusion qui est véhiculée par le mythe, c'est-à-dire l'idée que si c'est cette entreprise qui est connue pour avoir lancé le premier smartphone, le premier baladeur MP3. Alors souvent c'est faux, hein. Souvent il y a d'autres entreprises dans les années précédentes qui l'ont fait, mais qui n'avaient pas, qui n'ont pas réussi à avoir un marché aussi vaste que l'entreprise qu'on retient. En fait, on s'imagine que, bah, très logiquement, si ce sont eux qui occupent le marché, c'est que c'était les premiers. Et si ce sont les premiers, c'est parce que c'est les premiers à avoir vu et qu'en fait, les concurrents en fait, étaient bien incapables de voir. Or, c'est tout autrement que ça se passe. En général, les ingénieurs dans un milieu, dans une industrie, sont bien capables de voir et d'anticiper ce qui va se passer à 10, 15, 20, 30 ans, d'en avoir une idée parfois très précise. Simplement, l'innovation, en fait, le processus de recherche sur des composantes, la miniaturisation, la baisse des coûts, tout ça est un processus assez long. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas la vision, c'est la fenêtre technologique, c'est-à-dire à partir de quel moment les pièces vont être suffisamment miniaturisées, suffisamment performantes et suffisamment peu chères pour être assemblées au sein d'un produit. Et à ce moment-là, on est sur une ligne de départ. Quelle est l'entreprise parmi les 5-10 entreprises qui vont se lancer qui va réussir à s'imposer sur le marché ? Et en général, on voit systématiquement, elles sont très nombreuses. Et celle qui arrive à s'imposer peut en fait, raconter son histoire et en fait, poser les jalons du mythe.
En fait, ce que tu montres, c'est que là, bon, pour le Apple, ça a été Steve Jobs. Pour Microsoft, ça a été Bill Gates. Mais en réalité, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est ça qui est à la fois fascinant dans ce mythe de l'entrepreneur. C'est qu'en fait, c'est eux, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et puis aussi, cette incarnation totalement capitaliste, justement, de ce que tu viens de dire, que de la capacité à créer un futur. Mmh. Et du coup, je me demandais comment ce mythe de l'entrepreneur, justement, participe à la fois à un mythe du capitalisme en général et puis à cette espèce de mythe de la personnalisation du fonctionnement de l'économie, quoi. Mmh.
Alors, c'est très important, ça, effectivement, puisque en termes de conséquences idéologiques, si on s'accorde pour dire que bon, ça a été lui, ça aurait pu être un autre, il est interchangeable, parce que ce qui compte, c'est l'écosystème. Donc effectivement, quand on fait véritablement l'histoire des industries, la socio-histoire des industries, c'est un constat qui est vraiment inévitable, incontestable. Alors, si on en vient à cette conclusion, effectivement, la valeur, ce n'est pas un individu qui la porte, c'est un écosystème, et les individus sont interchangeables. Et en fait, la progression industrielle, alors ensuite, est-ce qu'on peut parler de progrès toujours, mais les avancées industrielles et technologiques, en fait, sont portées par un collectif, une intelligence collective. À partir de là, si on s'entend sur ce discours-là, alors comment légitimer l'accaparement de richesses, la concentration de richesses dans les mains de quelques-uns? Puisque si cette intelligence est collective, si ces avancées sont collectives, alors ceux qui s'enrichissent, c'est ceux qui ont réussi à tirer profit de l'écosystème et à s'accaparer une intelligence qui circule. En allant s'accaparer la ressource humaine, en étant effectivement au bon endroit au bon moment, en tirant profit des opportunités, mais effectivement, on les retire de l'équation et quelqu'un les remplace. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, la concentration des richesses sur tel ou tel type d'individu, ça relève davantage du hasard que de la compétence, du talent et de la suprême vision. Et voilà. Ce ne sont pas des gens qui portent l'histoire et le mouvement de l'histoire économique. Et donc, à partir de là, le regard qu'on peut jeter sur des choses comme l'impôt, le mérite, etc., s'en trouve bouleversé. Et c'est là qu'effectivement le mythe est porteur d'une idéologie et porteur justificateur de certaines politiques.
Pourtant, là, quand on parle de Jeff Bezos, de Bill Gates, tous ces projets sont nés dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, ce n'est pas un endroit anodin, c'est un endroit où il y a des universités, où l'État a aussi investi pour la recherche, pour des choses. Donc, ce n'est pas non plus des gens géniaux qui ont deviné quelque chose. Il y avait tout un écosystème à côté.
Effectivement.
L'écosystème public, financé par l'argent public.
Écosystème public, voilà. Oui, tout à fait.
Par l'argent public.
C'est ça, et c'est justement ce que j'allais dire. Effectivement, il y a quelques années, il y a un ouvrage qui a fait pas mal de bruit de Mazzucato qui s'appelle « L'État entrepreneur », qui rappelait bien que là où il y a des industries performantes, il y a eu de l'investissement massif de l'État en termes de subventions et de l'investissement aussi en recherche fondamentale, puisqu'elle explique bien dans son ouvrage qu'une industrie, en fait, avant que l'industrie se structure autour de certains procédés, de certaines matières, de certaines ressources, de certains produits, il faut qu'il y ait de la recherche fondamentale pour comprendre les phénomènes physiques, chimiques, qui sont essentiels en fait, au fonctionnement de ces objets. Et cette recherche fondamentale, elle est financée parfois à pure perte. On ne sait pas ce qui va advenir de cette recherche. Et Mazzucato explique bien que seul l'État peut se permettre d'intervenir avec un tel niveau de risque. Les entreprises, même les plus puissantes au monde, rechignent à réaliser ce type d'investissement qui peuvent être extrêmement coûteux, très longs et à pure perte. Donc, l'histoire de la Silicon Valley qu'on nous raconte peu, c'est effectivement les 50 premières années. Des années 10 aux années 70, c'est l'État, la puissance militaire américaine, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Guerre froide, qui investit massivement dans la technologie. Pourquoi ? Parce que les ordinateurs, ça permet de faire la guerre, avant toute chose. L'ordinateur, ça sert à faire la guerre, ça sert à piloter des missiles. Et on est dans, alors tout d'abord, Première, Deuxième Guerre mondiale, et ensuite dans une rivalité technologique avec l'URSS. Et donc ça va pousser, notamment dans les années 50-60, l'État américain à investir massivement alors, dans les universités, et notamment dans un comté qui est celui de Santa Clara, qui est là où se situe ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley, investissement massif dans la recherche, dans le développement, dans l'université, dans Stanford, qui est un parc industriel qui va nourrir des startups. Et alors, on a cet État qui est l'État financeur dans la recherche fondamentale, mais on a aussi un État qui est client. C'est-à-dire que des entreprises comme Intel, Hewlett-Packard, Fairchild Semiconductor, tous ceux qui vendent des semi-conducteurs, des puces, des processeurs, pendant des décennies, vont vendre à l'État. Ça, c'est des puces qui vont alimenter...
Ils vont vendre aussi à l'armée, en fait.
Voilà, ça. À l'État, à l'armée, pour équiper des systèmes de missiles, principalement, etc. Et c'est seulement à partir des années 80 qu'on a une conversion de cette industrie vers des produits grand public, l'électronique grand public, la micro-informatique, ce qu'on va appeler l'ordinateur personnel. Et c'est à ce moment-là seulement que le capital privé, ce qu'on appelle les ventures capitalistes, hein, les investisseurs privés, vont prendre le relais. Et le relais partiel, puisque, comme on l'explique aussi en économie, l'État est toujours là pour continuer à financer certains investissements d'infrastructures, le GPS, Internet, tout ça, c'est encore des choses qui ont alimenté les années 90, 2000, 2010, et qui sont à la base des financements d'État, et qui aussi, en termes de maintenance, sont des financements d'État.
Et par ailleurs, parce que j'avais commencé ma question comme ça, qui était un peu double dans ce mythe de l'entrepreneur. Donc là, on vient de défaire l'idée que l'entrepreneur, c'est cette personne géniale qui, elle toute seule, a ouvert un marché, mis sur le marché une innovation qu'elle a financée elle-même. Il y a aussi cette dimension donc visionnaire dont on a parlé, mais du coup, cette dimension aussi d'un futur... D'un futur enviable, c'est-à-dire que grâce à ces quelques personnes visionnaires, eh bien, l'avenir va être radieux. Même là, on le voit en ce moment. Alors, Steve Jobs est mort, mais Elon Musk n'est pas mort. Et puis, il nous vend la vie sur une autre planète parce que il y a une planète B. Le capitalisme a détruit la Terre, mais le capitalisme va nous permettre de vivre sur Mars ou que sais-je, va nous permettre avec des implants de survivre à je ne sais quelle catastrophe. Il y a aussi cette dimension-là qui est véhiculée quoi, dans ce mythe de l'entrepreneur. Une dimension un peu, comme tu le dis dans le livre, prométhéenne.
Oui, un prométhéisme technologique, effectivement. En fait, le mythe de l'entrepreneur, on peut considérer que c'est un sous-ensemble du mythe du progrès, ou un sous-ensemble, encore plus largement, de l'imaginaire capitaliste. C'est-à-dire l'idée que les entrepreneurs sont des héros qui se prouvent sur le marché et qui font avancer l'humanité sur la route du progrès à travers la technologie. C'est la technologie qui nous permet de progresser. Et ça, c'est très vieux, effectivement, puisque... Alors, dans le récit fondateur, il y a une série que je trouve vraiment édifiante à ce niveau-là, qui est une série de la chaîne américaine qui s'appelle History, qui est une série sur les pères fondateurs de l'industrie américaine. Alors là, le mot est évocateur, un père fondateur. Ça commence fin du 19e siècle, justement. Fin de la guerre de sécession, le pays est en crise, le pays va vers le déclin, et là surgissent une nouvelle génération d'hommes, de pères fondateurs qui vont refonder l'Amérique industrielle. C'est des gens comme JP Morgan, des gens comme Andrew Carnegie, comme Rockefeller, qui sont en fait les nouveaux barons de l'industrie. Ils vont industrialiser les États-Unis, et dans le récit national, ils vont faire des États-Unis, là, en quelques décennies, la plus grande puissance au monde. Et voilà, et là, on est sur un récit collectif, c'est-à-dire c'est des gens qui vont construire l'industrie, conquérir la nouvelle frontière industrielle. Et on est toujours sous cette forme de récit. Il y a un deuxième récit collectif qui s'ouvre dans les années 80. L'Amérique est en crise face à la concurrence japonaise et allemande, la montée du chômage, la crise pétrolière, etc. Repli, insécurité, angoisse identitaire. Et là, création d'une nouvelle frontière, la frontière digitale. La Silicon Valley, Internet, les autoroutes de l'information, la micro-informatique, Steve Jobs, Bill Gates, des jeunes gamins audacieux félicités par Reagan, qui expliquent que ce sont eux, en fait, la sève de l'Amérique. Et là, en fait, à nouveau, on est sur l'idée de la nation qui va se réinventer à travers le progrès technologique. Et en fait, c'est une phase dans laquelle on est, de laquelle on n'est pas véritablement sorti, puisque ça se prolonge et ça se répète à travers voilà, Zuckerberg, Bezos, et jusqu'à Elon Musk, qui est un peu la redite caricaturale de tout ce qui a précédé.
Sauf que Elon Musk, il a une particularité par rapport à toutes ces autres figures que tu viens de citer, y compris Andrew Carnegie, c'est qu'Elon Musk, c'est un héritier, je crois. Mm-hmm. Et tous les autres ne sont pas, en tout cas, ont construit leur propre histoire, leur storytelling, en disant qu'ils n'étaient pas des héritiers. Et ça, c'est important, notamment parce que, aussi, dans le mythe des pères fondateurs, il y a aussi cette dimension-là, qu'aux États-Unis, eh bien, on n'a pas besoin d'être héritier. Au contraire, il vaut mieux ne pas être un héritier pour devenir un personnage héroïque, un personnage prométhéen. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette...
Alors, le point commun de toutes les grandes célébrités entrepreneuriales depuis 150 ans, c'est qu'elles sont toutes des héritiers à des niveaux différents. Il y a, dans les années 20, déjà, des sociologues qui ont déconstruit le mythe de l'entrepreneur, ils ne l'appelaient pas comme ça, mais ils se sont dit, bon, alors, ces grands self-made men qui ont fait l'industrie ces 50 dernières années, d'où ils venaient? Ils ont fait des études statistiques sur toutes les grandes fortunes. Ils ont montré que, en fait, c'était essentiellement, alors à l'évidence, hein, des hommes blancs anglo-saxons protestants, habitant dans certains comtés du nord-est des États-Unis, étant tous fils de la bourgeoisie bancaire et commerçante, et ayant tous fait, dans une immense majorité, des études assez longtemps, jusqu'à 16-18 ans, et ayant tous commencé comme clercs. Et même pour ceux qui pourraient faire exception, Andrew Carnegie, effectivement, il a commencé comme bobineur dans une usine textile. Voilà, alors effectivement, ça peut être impressionnant, sauf qu'il n'y a jamais de hasard quand on se renseigne sur la vie de Carnegie. Il venait de l'aristocratie ouvrière. En fait, dans sa famille, il y avait des gens très lettrés. Il arrivait, en tant qu'enfant, il était déjà assez éduqué, il savait lire, écrire, compter. Et à Pittsburgh, là où il a grandi, ça lui a permis d'être messager, puis télégraphiste. Et encore une fois, être allé au bon moment, au bon endroit, au bon moment, il était là dans une ville qui était en pleine effervescence dans la conquête de l'Ouest, dans la construction ferroviaire. Et il était là où les réseaux financiers s'articuler, où on pouvait saisir tout un ensemble d'opportunités qu'aujourd'hui on appellerait du délit d'initié, en fait. Hein. Et il a construit sa fortune là-dessus. Et alors, récemment, alors effectivement, plus on est... pour certains, c'est difficile, comme Bill Gates, qui est voilà, un fils de banquier, pour Elon Musk, qui est une famille très bourgeoise, c'est difficile de dire qu'on est un gamin pauvre de la campagne. Mais dans ce cas-là, on se présente comme un marginal, quelqu'un à la marge, et c'est une forme de pas de côté.
Ce soir, on parle du mythe de l'entrepreneur. Le sous-titre, c'est « Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». On est avec Anthony Galluzzo. Le livre est paru à la découverte chez Zone. Et juste avant la pause musicale, on parlait de ce mythe. Alors, si je dis mythe des origines, c'est pas exactement ça, mais le mythe de fait que ces entrepreneurs, justement, ces figures, hein, Steve Jobs, Jeff Bezos, Andrew Carnegie, pour revenir loin dans le temps, sont des fils... qui ont été qui n'ont pas hérité, qui ont vécu limite dans la pauvreté. Et alors, on peut défaire évidemment hein, cette idée-là, mais cette idée-là, elle est importante dans la construction de ce mythe, puisque c'est une idée qui permet de montrer qu'en fait, ou qui permet de prouver plutôt, que en fait, ceux qui réussissent, ces entrepreneurs, sont des personnes de caractère. Et ça, tu t'en parles dans ton livre de. L'histoire de la construction de cette idée que tu as appelée l'éthique du caractère, qu'en fait, il faut se forger le caractère, il faut trouver ses propres ressources dans son propre caractère, donc d'avoir uniquement des ressources mentales pour réussir. Et je me demandais à quel point ça forge cet imaginaire social aux États-Unis.
Alors, l'éthique du caractère, c'est quelque chose qui est très important fin 19e siècle, dans une littérature qui émerge et qui explique aussi un autre phénomène actuellement voilà, très, très voyant quand vous allez dans une librairie, qui est le phénomène du développement personnel, le self-help, comme le disent les Américains. En fait, c'est une industrie, dans l'industrie du livre, au sein de l'industrie du livre, c'est un secteur, c'est un genre de littérature qui explose fin 19e, début 20e. Pourquoi ? Parce que l'Amérique rentre en crise, on n'est plus une société de petits propriétaires terriens, paysans, agraires, on est dans une société de monopole avec des grands empires industriels qui contrôlent l'économie, etc. Donc il y a une crise d'identité et les gens se cherchent aussi en termes d'identité économique, qu'est-ce qu'ils peuvent être comme agents sur ce marché. Et on va puiser dans la tradition protestante, à la Benjamin Franklin, l'éthique du caractère. Il faut être un homme ascétique, droit, austère, travailleur, régulier. Et en fait, ce travail, ce dur labeur va être récompensé. Sauf que c'est assez largement insuffisant, c'est déjà assez un peu démodé, et en face, les sceptiques peuvent assez facilement se moquer de ce type de rhétorique. Hein. Quel plus grand travailleur régulier qu'un ouvrier, qu'un paysan ?
Qui se lève tôt.
Voilà, exactement. Et alors là, on va convoquer d'autres influences, le darwinisme social notamment, mais aussi, en fait, ce qu'on va appeler l'énergie, la volonté. Et là, on arrive aussi sur une des sources idéologiques de développement personnel actuel, qui est en fait la pensée positive. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'énergie, qui est motivé, qui pense positif, qui croit à son destin, eh bien, il va forcément le provoquer. Il va forcément attirer à lui des bonnes choses. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans les années 20-30, où on a des best-sellers, un peu comme aujourd'hui, hein, qui sont mi-développement personnel, mi-entreprise de soi, vraiment, qui existent encore aujourd'hui, qui sont encore vendus aujourd'hui pour certains, et voilà, qui vous expliquent que votre destinée, votre succès économique sur le marché, vous le provoquez par un regain d'énergie.
Mais d'ailleurs, c'est assez marrant, enfin, c'est pas du tout marrant, mais c'est assez frappant que ces best-sellers apparaissent dans les années 30 aux États-Unis, qui sont les années de crise et de grande dépression.
Oui, totalement. On a, de toute manière, hein, c'est toujours comme ça, quand on étudie les imaginaires, c'est toujours extrêmement contradictoire et conflictuel. Il y a une lutte aussi qui se met en place par rapport à ça. Et alors justement, c'est très contesté. C'est une période particulièrement intéressante, la fin du 19e, début 20e, parce qu'il y a une bataille d'idées extrêmement importante entre des socialistes, des anarchistes d'un côté qui vont être extrêmement critiques de cette littérature. Et en même temps, cette littérature aussi qui plaît, qui a un certain succès, il y a une cohabitation de ces imaginaires. Là où on est, à mon sens, dans une phase différente depuis les années 80, c'est que ces idées, par exemple, voilà, vous prenez l'industrie du développement personnel, les livres du développement personnel, la culture start-up, etc., sont peut-être aujourd'hui un peu plus hégémoniques, puisque la gauche radicale de l'époque était très vigoureuse. Un des grands classiques de l'histoire ouvrière s'appelle Dynamite aux États-Unis, parce qu'en fait, la dynamite était un outil pour faire sauter des usines et des patrons. Il y avait une guerre de classe féroce, en fait. Il y avait une véritable guerre de classe et pas simplement des conflits d'intérêts et des polémiques verbales. Voilà, donc on a un contexte qui a beaucoup changé, mais pour en venir à cette littérature, effectivement, on est au-delà de la coïncidence. Hein. La naissance du mythe de l'entrepreneur et de l'industrie du développement personnel, c'est des récits qui permettent de légitimer le nouvel ordre économique où on a d'énormes entités qui décident en fait de l'entièreté de la chaîne de valeur, qui décident du destin de centaines de milliers de travailleurs. Voilà, les capacités d'enrégimentation de l'entreprise multidivisionnelle, hein, qui date de cette époque, hein, qui menait fin 19e siècle, pouvoir qui est immense et qui, à son apparition, est plus contesté que jamais. Pourquoi on laisserait vivre cette forme institutionnelle ? Pourquoi on laisserait ce pouvoir à ces quelques individus ? Et c'est dans ce contexte, en fait, de lutte qu'émergent ces littératures de combat, en quelque sorte.
Alors, puisqu'on parle de récits de vie et de développement personnel, dans l'histoire de Steve Jobs, il y a beaucoup de mythes, finalement, parce qu'il raconte que... Enfin, on raconte que c'est un enfant abandonné qui a été recueilli par la Silicon Valley. En fait, la Silicon Valley a-t-il vraiment recueilli Steve Jobs ? C'est pas tout simple, c'est pas aussi simple que ça. Après, il y a l'initiation, où il est parti en Inde, il a justement eu un espèce d'éveil spirituel, éveil à la découverte de nouvelles horizons. Et puis, il y a l'aventure, il y a tout un récit, en fait, de cette histoire-là, qui est une construction sociale et une construction qui n'est pas grand-chose forcément à voir avec la réalité.
Alors, effectivement, la rhétorique du génie est très intéressante, puisque, alors, ce qui n'est pas la moindre contradiction dans toute cette littérature, c'est l'idée que L'entrepreneur, c'est une apparition soudaine. Personne ne l'entendait, c'est un marginal. Il arrive et il bouleverse tout. Personne ne pouvait prédire qu'il allait être là où il a brillé. Et pourtant, depuis tout petit, il est génial. Depuis
il y a un côté
petit,
messie, en fait.
Effectivement. Et alors, ça, c'est une véritable contradiction qui est rarement soulignée. Et alors, chez Steve Jobs, effectivement, alors, moi, je compare ça un peu ironiquement à Jésus au temple. Hein, c'est-à-dire, il y a Isaacson, c'est celui qui a écrit la biographie la plus vendue mondialement de Steve Jobs, qui est parue peu après son décès. On pourrait revenir, c'est un travail de commande. Hein, c'est Steve Jobs lui-même qui a fait la commande de sa biographie un peu avant sa mort. Et en fait, dans cette biographie, on apprend que Steve Jobs étant petit, il va à l'église, il demande au pasteur comment ça se fait qu'il y a tant d'injustices dans le monde et tant d'enfants qui souffrent de la faim. Le pasteur ne sait pas trop lui expliquer pourquoi, la volonté de Dieu, etc. Et là, Steve Jobs explique que... sort de l'église, est furieux, etc. Se rebelle contre l'autorité pastorale. Et voilà, c'est censé cristalliser, illustrer son génie propre, sa précocité. Il y a tout un ensemble d'aventures. Une des choses qu'on raconte le plus dans les biographies, c'est l'idée que tout petit, quand il bricolait un peu en électronique, il a appelé l'un des patrons de Hewlett-Packard pour lui commander des pièces. Et alors tout ça serait annonciateur de son destin. Il pouvait que réussir, c'était déjà quelqu'un de supérieur. Et rétrospectivement, on construit tout ça, cette rhétorique du génie, effectivement.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est que donc il se présente lui-même comme une personne extraordinaire, alors même que ce récit est tout à fait ordinaire et tout à fait ancré dans son époque, puisque son initiation en Inde, c'est correspond complètement aux années 90, là où il est parti dans un 90, où il est parti dans un ashram. Et puis même son style plus tard, son style avec son petit col roulé, son côté un peu auteur, c'est toi-même qui utilises ce terme, hein, auteur lui-même de son entreprise. En fait, ça correspond complètement aux années 2000, ça correspond complètement à cette époque du capitalisme qu'il est en train de vivre. Donc là, il y a aussi une contradiction entre l'ordinaire et l'extraordinaire.
Oui, il est très représentatif de la culture californienne de l'époque, qui a un mélange, alors que ça a souvent été commenté, qui a un mélange de technophilie, d'ingénierie et de culture hippie. Alors chez certains, d'ailleurs, ça cohabitait avec des idées anarchistes, mais pas chez tous. Et alors lui, effectivement, dans les années 70, il part en Inde. Et, en fait, il y avait toute une industrie en Inde, au Népal, d'Américains qui, effectivement, avec un dollar fort, avec un dollar par jour, on pouvait très, très bien vivre en Inde à l'époque. Donc il y avait des quantités de jeunes bourgeois américains qui allaient essayer de se trouver un gourou en Inde. Et il en a fait partie, effectivement, c'est relativement banal. Là effectivement... c'est quelque chose qui symbolise bien aussi la marchandisation de la contre-culture, hein, on a beaucoup parlé. C'est que, effectivement, lui, il a représenté Apple et en fait, il a retiré de cette idée contre-culturelle l'idée d'une rébellion fondatrice, d'être un auteur, effectivement, d'être un être exceptionnel, d'être non pas un homme d'affaires, un homme d'argent, un homme d'entreprise, mais un artiste qui fait advenir sur le marché de beaux objets. Et ça, ça a été tout le récit de sa vie. Et qui combat les capitalistes de l'extérieur et l'intérieur. Le capitaliste de l'extérieur, c'est Bill Gates, hein, qui, lui, il est juste là pour l'argent. C'est pas un entrepreneur, c'est un capitaliste. Lui, Steve Jobs, en fait, il est là pour faire triompher le beau. Et en fait, en cela, il incarne une espèce d'idéal contre-culturel au sein même de l'économie capitaliste. Et alors ça, c'est vraiment encore une pierre angulaire de la rhétorique capitaliste, de ce qu'on peut appeler le nouvel esprit de consommation, le nouveau marketing depuis les années 70. C'est l'idée que nous sommes des publicitaires anti-publicité. On fait du marketing anti-marketing. Différenciez-vous en achetant nos produits. Ça, c'était une bascule dans la culture de consommation qui a été véritablement très importante dans les années 70.
Et bien justement, tu en as parlé. Dans tout récit mythologique du héros, il y a un vilain, il y a un antagoniste. Et chez Steve Jobs, c'est justement Bill Gates qui incarne. Alors là aussi, c'est totalement paradoxal, puisqu'il incarne cet esprit pour Steve Jobs, hein, Bill Gates incarne cet esprit étriqué, ce côté faire de l'argent pour faire de l'argent. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fils d'un banquier, alors que Steve Jobs, c'est les idées. Il se place pas du tout sur le terrain économique, il se place sur le terrain de l'idéal, de l'esthétique, etc. Alors même que quand on regarde les produits, en fait, les produits Apple sont des systèmes fermés, alors que les produits Microsoft sont des systèmes ouverts. Comment il a réussi, Steve Jobs, à faire... croire, ou en tout cas à construire ce personnage hors des clous, alors même que ces produits sont des produits qui fonctionnent sur des systèmes fermés.
En fait, c'est complètement décorrélé, effectivement. Alors ça, c'est la magie du marketing, l'action publicitaire et promotionnelle. En fait, il faut bien comprendre, on a parfois l'impression que la publicité et le marketing, c'est quelque chose de très lisse. Ça peut l'être, effectivement, quand il y a des grandes marques lisses, hein, Coca-Cola, c'en est une, par exemple, mais il y a d'autres stratégies marketing. Et un des grands fondamentaux en fait, de la communication politique comme marketing, c'est antagoniser. Et donc, se créer un méchant, un adversaire. Alors, ça peut être un groupe social, ça peut être un groupe humain, ça peut être un individu. Et alors, dans le marketing d'Apple, effectivement, ça a été fondateur les 20 premières années, notamment sous l'impulsion de Steve Jobs. Le premier ennemi, ça a été IBM, IBM PC, puis ça s'est déporté vers Bill Gates. Effectivement, alors ça s'est construit en fait, justement dans la continuité de cette idée de rébellion, il y a eu une publicité qui est restée parmi les plus fameuses, les plus connues, les plus célébrées encore aujourd'hui dans la culture publicitaire. C'est pour le lancement du Macintosh en 1984, où on reprenait le 84 d'Orwell, où en fait on voit une espèce de... Ça a été filmé par Ridley Scott, hein, c'est un des spots publicitaires les plus connus et les plus chers dans l'histoire de la publicité. On voit en fait un monde comme ça vampirisé par un Big Brother qui apparaît sur un écran géant, et on a une jeune femme en short rouge qui court et qui lance une masse et qui casse l'écran. Et en fait, c'est Mac qui vient casser le monde contrôlé par IBM PC, qui est cette force homogénéisante et aliénante, etc. Et effectivement, c'est amusant puisque c'est tout d'abord parfaitement contradictoire, puisque Bill Gates, Microsoft avec IBM PC, alors c'est pas par angélisme, hein, il y avait de véritables volontés commerciales derrière, mais il voulait un système ouvert avec une interopérabilité, une compatibilité maximum au niveau du hardware, ce qui n'était pas du tout ce qu'a fait Apple et c'est ce que continue à refuser de faire. Et alors, il y a cette contradiction-là qui est extrêmement importante, effectivement. Oui.
Mais par ailleurs, cette incarnation comme ça de quelqu'un qui se place sur le terrain des idées, ça permet aussi aux entrepreneurs, alors à Steve Jobs en particulier, mais aux entrepreneurs en général, de ne pas se situer justement sur le marché, de ne pas se situer en tant que patron. Mmh. Quel est l'intérêt pour eux de faire ça?
Alors, effectivement, Steve Jobs était très important dans sa rhétorique, hein, c'est-à-dire qu'il se présentait son équipe, lui et son équipe, comme des artistes et des humanistes, des gens qui s'intéressent à la biologie, à la peinture, à l'histoire, etc. Notamment quand on revoit les campagnes publicitaires Mac, en fait, de ces années-là, des années 80, c'est très prégnant. Il y avait aussi toute une façon, dès le début, Apple a fondé son marketing sur cette starisation. Et alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est d'opposer le capitaliste et l'entrepreneur. Et alors ça, c'est pourquoi l'entrepreneur, la figure de l'entrepreneur est si présente, c'est que ça permet de dichotomiser la classe capitaliste. Il y a les capitalistes, les spéculateurs, alors les Bill Gates quand on est du côté des fans de Steve Jobs, mais sinon quand on est du côté des fans de Bill Gates, alors il y en a beaucoup moins, mais dans les années 80 il y en avait un peu plus. Là, il était recatégorisé comme un entrepreneur et pas comme un capitaliste. Hein. Mais voilà, l'entrepreneur a un grand dessein, on l'a évoqué, hein, avec le progrès humain par la technologie, alors que le capitaliste est simplement un spéculateur, un profiteur. Et alors ça permet de conceptualiser le marché comme quelque chose qui se revigore, qui se revitalise, qui se redynamise. Certes, le capitalisme, c'est pas parfait, il y a des profiteurs, il y a de l'exploitation, mais régulièrement, un héros surgit pour réinventer les industries, redonner un coup de fouet, tout ça, et en fait, pour faire la justice, pour évacuer du marché tous les profiteurs, tous ceux qui stagnent et qui profitent de leur rente, pour réinventer des catégories de produits, renverser complètement des industries et faire triompher l'innovation. Et c'est en cela que c'est un système qui nous est présenté comme intrinsèquement juste.
Dans cette mythologie du renversement, de l'invention, de l'entrepreneur, on ne parle jamais des travailleurs et encore moins des syndicalistes. Alors quel est le lien qu'il peut y avoir dans ces entreprises avec, on a compris que l'État c'était compliqué, mais les syndicalistes et les ouvriers et les travailleurs qui font ces téléphones Apple et ces iPads et ces je ne sais pas quoi.
Alors, l'histoire du syndicalisme en Californie est vraiment particulièrement intéressante. On a un syndicalisme, dans l'histoire américaine, qui est assez puissant, qui est assez bien implanté fin 19e, début 20e siècle. Et ensuite, on a un déclin, notamment sous l'impulsion du maccartisme, politique anticommuniste, qui va permettre aussi de désyndicaliser un maximum en associant les syndicats au Parti communiste, etc. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avec l'émergence de cette nouvelle industrie de la micro-informatique, l'essor de la Silicon Valley dans les imaginaires, dans les années 70, on a en fait des entreprises qui sont massivement non syndiquées. Et alors là, on peut digresser un peu là-dessus, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui, en fait, veillent à ce qu'il n'y ait pas de syndicats qui s'implantent. Et la méthode, en fait, alors elle est connue, hein, il y a une très grande industrie depuis plusieurs décennies aux États-Unis où, en fait, quand vous avez un processus de syndicalisation dans une usine, bah, voilà, dans la loi américaine, il faut voter, il faut qu'il y ait une majorité qui se prononce pour. Donc, dans l'intervalle, vous, en tant que capitaliste, vous faites peur en expliquant que vous allez délocaliser, mais aussi vous embauchez des consultants en lutte antisyndicale qui vont venir, qui vont faire pression avec énormément d'investissement dans la communication pour faire peur aux employés, pour qu'ils refusent la syndicalisation de leur propre usine. Et ça, c'est une méthode qui a été très efficace aux États-Unis. Et alors, le taux de syndicalisation s'est effondré dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et alors, l'industrie électronique est restée libre, entre guillemets, de toute présence syndicale. Ça a été, et ils sont très attentifs à ce que ça reste ainsi. Et alors ensuite, alors là, on parle vraiment d'une industrie qui, en plus, dès le début, a externalisé la production en Asie du Sud-Est, où là, c'est encore plus simple. Hein. S'il y a de la pression syndicale, si les ouvriers demandent des droits, et des droits, quand on parle des droits, c'est des droits vraiment minimaux. Hein, travailler moins de 14 heures par jour, avoir plus de 3 ou 4 jours de congé de repos par mois. Bon. Et ben alors là, c'est simple. Si ça fait pression sur les profits, ces revendications, si ça augmente le coût du travail, et ben on change de sous-traitant et on passe au pays, à l'entreprise suivante.
Alors là, on a l'impression quand même d'avoir une espèce d'aristocratie entrepreneuriale qui s'est mise en place avec ces entrepreneurs, mais en même temps, là, quand on parle de lutte antisyndicale, de sous-traitance, il y a un côté ultra conservateur, et ultra limite colonialiste. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, hein. Mais c'est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui est censé quand même être pour l'éveil du monde et avec les idéologies un peu hippies.
Complètement. Et alors, on peut en parler de ça, justement, par rapport à Elon Musk. On parle beaucoup d'Elon Musk. Encore une fois, il y a des choses qu'on répète sans cesse. Hein, il veut aller sur Mars, etc. On parle très peu de ce que le Guardian a évoqué il y a plusieurs années, qui est la lutte antisyndicale chez Tesla, qui est féroce aussi. Voilà. Encore une fois, ça, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir symbolique, hein, pour reprendre une terminologie marxiste, hein, le monopole des moyens de production, mais aussi les monopoles des moyens de communication, de production de symboles, de production de discours. On a la matière pour décrire ces entrepreneurs géniaux, précoces et innovants, en patrons exploiteurs, ce qu'ils sont très objectivement. Et on a énormément de matière et de preuves pour alimenter ces récits alternatifs-là. Le problème, c'est le rapport de force et le pouvoir, hein, puisque effectivement, pour faire circuler ces idées-là, il faut avoir accès à des grands haut-parleurs voilà, qui ne sont pas prompts à développer et à propager ce type de discours.
Et par ailleurs, c'est pas un hasard si les entrepreneurs dont on parle sont des entrepreneurs de la tech et du digital, puisque cette économie-là, particulièrement particulièrement être justement délocalisée, externalisée, sous-traitée. Et tu en as un tout petit peu parlé, hein, des conditions de travail parmi les sous-traitants, notamment Foxconn. Et tu parles d'ailleurs dans ton livre de la différence de traitement qu'il y a eu quand il y a eu une vague de suicides en 2010 chez Foxconn, à quel point on en a très peu parlé dans le monde occidental. D'ailleurs, en fait, on s'en souvient quasiment plus. Tu la compares à la lutte féroce antisyndicale menée par Carnegie au moment de la fusillade de Homestead. Homestead.
C'est ça, ouais.
Et tu montres que le fait que les travailleurs sur le sol américain, quand ils sont américains, et qu'il y a un conflit qui se termine en massacre, ça écorne passablement l'image et le mythe du grand patron entrepreneur qui était Andrew Carnegie à l'époque, alors que Aujourd'hui, bah, les conditions de travail des Chinois, des Vietnamiens, des Philippins, des Philippines, y compris sur le sol américain, ça écorne pas tellement leur image, en fait.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est le grand avantage contemporain du capitaliste. Hein, le capitaliste aujourd'hui, il évolue sur une chaîne de production, une chaîne de valeur mondialisée. C'est une incroyable opportunité pour lui en termes d'image. C'est-à-dire que on peut se laver les mains. Alors moi, je ne suis pas fabricant, je ne suis pas assembleur, j'ai un sous-traitant et malheureusement, il me cache des choses, je ne sais pas tout. Alors pourtant, j'ai des consignes très strictes, hein, on est très sérieux, on les audite, etc. Mais ils ont tout un ensemble de combines pour sous-traiter à leur tour et ça se perd dans les médiations marchandes. On voudrait bien contrôler, mais on ne peut pas. Ce qui est une parfaite hypocrisie, hein, puisque ces grandes entreprises, en fait, elles dominent les chaînes de valeur. Elles sont dans le design et le marketing, c'est-à-dire en amont et en aval. Alors ça, c'est la plupart des grandes entreprises qu'on connaît sont là-dedans. Et ensuite, on a ce qu'on appelle parfois dans la recherche en gestion une smiling curve, c'est-à-dire qu'en fait, au centre de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans la fabrication, l'assemblage, là, on a très peu de valeur, c'est-à-dire que les profits ne sont pas répartis à cet endroit-là de la chaîne. Et donc, on a des smartphones qui, en fait, rapportent, voilà, dans le prix de vente, voilà, ça rapporte, il est ramené à 60% en valeur chez le fabricant, le titulaire des droits, et les différents fabricants, les assembleurs ne touchent que quelques pourcentages. Et voilà, donc voilà, la Chine, usine du monde, est bien pratique à ce niveau-là, et c'est effectivement très, très, très intéressant et avantageux pour eux, parce qu'ils peuvent toujours feindre l'ignorance et l'incapacité à maîtriser ces flux marchands extrêmement complexes, alors qu'ils ont en vérité tous les moyens de les contrôler. Et il y a aussi, on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que c'est des Chinois, c'est des Philippins, c'est des Vietnamiens, c'est loin. Mais il y a aussi effectivement la racialisation, c'est-à-dire que on voit dans l'histoire de la Silicon Valley, ce qui est encore moins connu, c'est que dans les années 80, 90, 2000, on avait des milliers de travailleurs dans la Silicon Valley qui fabriquaient des semi-conducteurs, différentes pièces électroniques qui nourrissaient directement l'industrie locale. Ces travailleurs étaient systématiquement des femmes philippines, indochinoises principalement, et pour les travaux de maintenance des Sud-Américains. Et ce qu'on nous explique très bien dans la littérature scientifique sur ce sujet, c'est que c'est bien pratique parce que à la fois, quand on les licencie massivement, ça n'émeut personne. Et ensuite, quand c'est une main-d'œuvre qui est en délicatesse aussi avec l'État par rapport au papier, qui est une main-d'œuvre immigrant illégaux, on peut jouer le chantage. Attention, si vous réclamez un peu trop de salaire, un peu trop de temps de pause, on va appeler les services de l'immigration. Et on peut. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas l'extrapolation, hein, tout ça est basé sur la littérature sociologique, c'est-à-dire des gens qui ont fait de l'immersion participante dans les usines de la Silicon Valley des années 80-2000. Ça a été très largement documenté, hein, là je parle de sources universitaires, c'est des techniques qui sont très connues.
Alors, Anthony, c'est quasi la fin de l'émission. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir pour ce livre, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imagination de la Silicon Valley. Alors, à la fin de ton ouvrage, alors, c'est pas des pistes, mais enfin, l'idée, c'est pas forcément de défaire l'imaginaire entrepreneurial, mais il y a un côté quand même de déconstruire, mais surtout mener à la défaite cet imaginaire-là.
Oui, alors là, c'est là où je passe le relais au lecteur. Effectivement, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, il y a deux sens. Défaire la déconstruction. Et alors là, j'explique que dans ce livre, j'ai essayé d'apporter ma pierre à cette déconstruction analytique, si vous voulez, c'est-à-dire déconstruire, essayer de désemberlificoter tous ces récits et de montrer ce qu'ils ont de pernicieux, de biaisé, etc. Et d'aider le lecteur à décrypter tout ça et à analyser tout ça. Et à prendre un peu de recul critique sur tous ces discours qui nous embaument, hein, qui sont partout et qui, en étant partout, sont parfois difficiles à penser. Mais ensuite, il y a défaire au deuxième sens, qui est combattre politiquement. Et là, effectivement, à mon sens, hein, je finis sur ce qui est une opinion personnelle, combattre politiquement, déconstruire analytiquement, ça ne suffit pas. Il faut construire des imaginaires concurrents et les rendre désirables. Et là, c'est tout un autre travail, effectivement, qui s'ouvre à nous.
En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Donc, je rappelle le nom de l'ouvrage, c'est « Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imagination de la Silicon Valley ». C'était Anthony Galluzzo. Il se trouve que c'est publié aux éditions Zone, donc dans toutes les bonnes librairies, mais c'est aussi, on peut le lire d'une façon libre sur Internet. Je mettrai le lien sur notre site internet www.loldf.org. Mais en tout cas, c'était passionnant et hyper intéressant de comprendre tout ce qu'on nous a fait croire qui n'était pas vraiment ça. Spectre.